Je ne voulais pas leur demander de faire une chose que je n'aurais pas faite moi-même.
Cet avion faisait délibérément de l'espionnage.
Ces 10 ans de service à la CIA ont été l'aboutissement d'une vie unique de dévouement au service public.
D'une élégance discrète, moustache taillée, fines lunettes de métal, la pipe toujours à la bouche, Alan Dulles ressemble plus à un professeur qu'à un espion. Pourtant, l'espionnage a été la grande passion de sa vie. Mais lui ne se salit pas les mains. C'est un cerveau, il tire les ficelles.
All I can say is that,
tout ce que je peux dire, c'est que
I hope I have a reasonable moral standard.
J'espère avoir des valeurs morales raisonnables.
Alan Dulles a été directeur de la CIA de 1953 à 1961, le plus long règne de l'histoire de l'agence de renseignement américaine dans les années à haut risque de la guerre froide. Surnommé le requin, Dulles est pour les uns l'homme qui a permis au monde d'échapper à la menace soviétique, un croisé de l'anticommunisme. Pour les autres, Dulles est celui qui, au mépris de la démocratie, parfois au service d'intérêts privés, a fait de la CIA un État dans l'État et terni pour des générations l'image des États-Unis. Coup d'État, assassinat politique, torture, surveillance des citoyens. Des coups tordus et secrets qu'Alan Dulles a contribué à banaliser, même si, bien évidemment, il l'a toujours nié.
Je pense vraiment qu'il y a des moments où soutenir un mouvement qui vous est favorable dans une situation difficile est la meilleure manière d'empêcher que ce mouvement ne passe sous la coupe des communistes. Et c'est arrivé de temps en temps.
Est-ce que les Russes ont une CIA ?
Le KGB est une des plus sinistres organisations qui ait jamais été créée.
Avons-nous un code moral dans nos activités que eux n'ont pas ?
Oh oui, beaucoup plus qu'eux.
Vous pouvez en dire plus ?
Pour autant que je sache, nous ne faisons pas d'assassinats, de kidnapping et de choses comme ça. Pour autant que je sache, nous ne l'avons jamais fait. Pour autant que nous le sachions, eux l'ont fait, et de manière constante.
Did you apply, for example, moral standards to what you did when you were director of the CIA?
Par exemple, avez-vous appliqué des normes morales à vos actions quand vous étiez directeur de la CIA?
Yes, I did.
Oui.
Why? Because I don't think, given the caliber of the
men
and women I had working for,
aux hommes et aux femmes de grande qualité qui travaillaient pour moi,
I didn't want to ask them to do.
Je ne voulais pas leur demander de faire une chose que je n'aurais pas faite moi-même.
All I can say is that.
Tout ce que je peux dire, c'est que. Je suis fils de pasteur. J'ai été élevé en presbytérien. J'espère avoir des valeurs morales raisonnables.
Alan Dulles, en 1964, on lui donnerait le bon Dieu sans confession à ce fils de pasteur. Mais ce passé refoulé a ressurgi en 2007 avec la déclassification d'archives de la CIA.
La CIA publie ses bijoux de famille, déclassifiant 700 pages de documents qui détaillent des dizaines d'opérations illégales des années 50 aux années 70.
Depuis sa prise de pouvoir en 1959, la CIA ne rêvait que d'une chose, supprimer le dirigeant cubain communiste.
De nombreuses parties des documents ont été occultées. Elles détaillaient des éléments d'assassinat contre des dirigeants étrangers comme Fidel Castro et Patrice Lumumba du Congo.
Projet de mollusques explosifs, cigares piégés, bombes sous une tribune, les services secrets américains n'étaient pas à court d'imagination. Selon l'ex-chef des services de renseignement cubains, près de 640 tentatives d'assassinat ont été organisées contre le leader Massimo. L'une d'elles l'a particulièrement marqué.
En mars ou avril 1963, Fidel Castro s'est rendu dans un café, le Free Havana, où travaillait Santos de la Caridad, un agent de la CIA. Castro a commandé un milkshake au chocolat. Santos est allé chercher une capsule empoisonnée pour la diluer dans la boisson, mais il a échoué. C'est à ce moment-là que la CIA a été le plus près de réussir à assassiner Fidel.
La plupart sont peu flatteurs, mais c'est l'histoire de la CIA.
Des opérations secrètes qui, jusqu'en 1961, portent toutes le sceau d'Alan Dulles et qui ont fait de lui l'homme indispensable, voire intouchable, de la politique étrangère américaine. Mais en 1961, après l'humiliant fiasco de la baie des cochons à Cuba, le président Kennedy décidera de le limoger, avec, en guise de cadeau d'adieu, un beau discours et une médaille.
Dulles.
Monsieur Dulles, approchez. Vous êtes ici pour recevoir la médaille de la sécurité nationale. Ces 10 ans de service à la CIA ont été l'aboutissement d'une vie unique de dévouement au service public, qui a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale et s'est étendue sous l'administration de 7 présidents. La contribution hors du commun que M. Dulles a apportée à la sécurité des États-Unis était fondée sur une connaissance profonde du rôle d'agent secret, une large compréhension des relations internationales et un jugement sûr des hommes et des affaires, une énergie inépuisable et une incontestable intégrité au service de son pays.
Alan Dulles a en effet une longue et brillante carrière derrière lui. Né en 1893 dans une bonne famille de la côte Est, fils d'un pasteur presbytérien, petit-fils et neveu de ministre des Affaires étrangères, le jeune homme baigne très tôt dans la politique et dans la certitude que les États-Unis, et lui personnellement, ont une mission sur Terre, faire triompher le bien et éradiquer le mal. Tout comme son frère, Foster, qui comme papy et comme tonton, deviendra ministre des Affaires étrangères. Mais les deux frères sont très différents. Autant Alan aime briller dans les salons et séduire les femmes, il aura de multiples maîtresses, autant Foster est sévère et austère. Il n'empêche, les deux frères formeront un couple soudé quand ils seront au même moment aux affaires. Après des études à Princeton, Alan entre dans la diplomatie, mais il s'y ennuie ferme et il veut gagner de l'argent. Une anecdote cocasse, en 1917, Dulles, qui est alors en poste en Suisse, reçoit un coup de fil d'un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, alias Lénine, qui souhaite obtenir un visa pour les États-Unis. Dulles, qui est pressé, envoie promener l'inconnu. On peut se demander ce qui se serait passé si Lénine était parti en Amérique au lieu d'aller faire la révolution en Russie. Tout en poursuivant dans la diplomatie, le scrupule d'une collusion d'intérêts ne semble même pas l'effleurer, il devient avocat d'affaires chez Sullivan & Cromwell, un gros cabinet new-yorkais qui travaille pour les banques et les multinationales américaines et avec lequel, même quand il sera directeur de la CIA, il gardera des liens étroits. Dans les années 30, le cabinet aura entre autres clients la jeune Allemagne nazie qui l'aidera en lui apportant des financements américains. En 1942, Dulles réalise enfin son rêve quand il est engagé par l'OSS, l'Office of Strategic Services, le nouveau service de renseignement américain.
Quand Washington s'est remis de l'incroyable attaque à Pearl Harbor, il a pris conscience de l'efficacité et l'avancée de l'espionnage allemand et japonais. L'ordre est alors venu de la Maison-Blanche que les États-Unis, aussi, doivent avoir des yeux et des oreilles dans les pays ennemis. Immédiatement, la nation, pour la première fois de son histoire, a décidé de recruter des agents secrets.
Alan Dulles est envoyé en poste en Suisse, à Berne, alors plaque tournante de l'espionnage en Europe. Il y accomplira du bon boulot en faveur de la résistance et de la chute du Troisième Reich. En 1946, le film « 13 rue Madeleine » de Henri Attaway raconte les exploits héroïques des agents de l'OSS. Leur chef, joué par le génial James Cagney, explique aux petits jeunes qui apprennent le métier que si l'Américain moyen est un brave type, un espion américain n'est pas un brave type. Il apprend à tuer, à mentir, à voler. Il doit accomplir sa mission, car la guerre n'est pas un jeu.
Ladies and gentlemen, now the average American...
Un Américain moyen est un brave type. Fair play, qui respecte les règles. Mais cette guerre n'est pas un jeu. Et un agent secret n'est jamais un héros, un brave type. Vous allez apprendre à tuer, à tricher, à voler, à mentir. Et tout ce que vous allez apprendre n'aura qu'un objectif, un seul. Le succès de votre mission.
Une leçon qu'Alan Dulles aura pu lui-même donner. Il faut bien se rendre compte, cette manière décomplexée de concevoir le renseignement a été une vraie révolution aux États-Unis. Dans les années 30, l'espionnage était considéré avec mépris. Un vrai gentleman ne lit pas le courrier d'autrui, disait-on dans les hautes sphères. Des pudeurs qui ont volé en éclats avec la Seconde Guerre mondiale. Mais l'obsession anticommuniste de Dulles l'amène parfois sur des terrains risqués. À la fin de la guerre, il sera soupçonné par les soviétiques d'avoir tenté de faire signer une paix séparée entre anglo-saxons et allemands. 1945, la guerre est finie. À Nuremberg, l'heure est au châtiment pour les nazis.
Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. Les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes.
Mais 1945, c'est aussi le début de la guerre froide. Une aubaine pour beaucoup de criminels nazis qui réussiront à fuir. Certains seront engagés par les services secrets américains. Alan Dulles ne verra par exemple aucun problème à travailler avec un ex-officier nazi comme Reinhard Gehlen.
On compte peu d'archevêques dans le monde de l'espionnage. Reinhard Gehlen est de notre côté, et c'est tout ce qui compte. Et puis, on n'est pas obligé de l'inviter à son club.
Guerre froide oblige, le gouvernement américain valide la poursuite des opérations secrètes. Une stratégie que Dulles va appliquer à grande échelle quand il prend la direction de la CIA.
Animé par la passion de l'anonymat, le directeur de la CIA doit y consacrer sa vie. Lui et ses collaborateurs doivent, en quelque sorte, prendre la robe de bure du service.
À peine a-t-il enfilé sa robe de bure qu'Alan Dulles, en 1953, lance une opération secrète en Iran. En 1951, Mossadegh, le premier ministre d'Iran, qui n'est en rien communiste mais souhaite démocratiser et moderniser son pays, a écarté du pouvoir le souverain, le Shah d'Iran, et nationalisé le pétrole au détriment de l'entreprise anglaise British Oil. Pour les Américains, pas de doute, l'Iran va tomber dans le camp communiste et menacer la sécurité des États-Unis. Alan Dulles et la CIA montent alors une opération, nommée TP Ajax, visant à créer un coup d'État à Téhéran. Un plan en 6 étapes. Discréditer Mossadegh par de la propagande, obtenir la coopération du Shah, celle des militaires et de parlementaires. Organiser le jour J des manifestations de rue et amener le Parlement à voter le renvoi de Mossadegh. Enfin, en cas d'échec, prévoir une solution militaire. L'opération est lancée le 15 août 1953. Le 20 août, Mossadegh se rend. Et 2 jours plus tard, le Shah d'Iran rentre d'exil.
D'Iran nous parviennent les images moins paisibles du triomphe éphémère de Mossadegh. Le vieux renard n'aura été le maître de Téhéran que le temps de déboulonner la statue équestre du père du Shah. L'action des royalistes appuyés par l'armée retournait en effet très brutalement la situation
en faveur du jeune souverain dont l'exil aura été particulièrement bref.
Un régime pro-américain très répressif est mis en place qui perdurera jusqu'à la révolution islamique de 1979. Alain Dulles niera toujours la responsabilité de la CIA dans ce coup d'État.
Le gouvernement de Mossadegh, je vous le rappelle, a été renversé par le Shah. Maintenant que nous ayons encouragé l'action du Shah, je ne le nierai pas.
L'opération est un succès total, applaudi par le président Eisenhower. Hélas, pourrait-on dire, car fort de cette victoire, Alain Dulles ne tarde pas à reprendre la recette, tous azimuts. Son attention se porte maintenant vers le Guatemala, un pays d'Amérique centrale, engagé après des décennies de dictature dans une voie démocratique. Le nouveau président, élu en 1951, Jacobo Arbenz, est perçu comme une menace communiste, d'autant que son ambitieuse réforme agraire met à mal les intérêts de la United Fruit Company, une firme américaine qui possède d'immenses exploitations agricoles au Guatemala, célèbre notamment pour ses cultures de bananes.
À 1000 miles au sud de la Nouvelle-Orléans, les eaux bleues des Caraïbes s'échouent sur les côtes de l'Amérique centrale. Pendant des années, ces pays des tropiques ont été desservis par la grande flotte de la United Fruit Company. Sur ces terres, principalement agricoles, les habitants sont moins nombreux que ceux de New York.
Une entreprise où Alain Dulles lui-même et son frère ont des intérêts personnels. Beaucoup de raisons donc qui amènent la CIA à monter l'opération secrète PB Success. Discréditer Jacobo Arbenz, créer un corps expéditionnaire confié à un colonel en exil, Carlos Castillo Armas. Le tout au son de Radio Liberator.
Attention Guatemala. Attention Guatemalteco. Radio Liberación en 6.370 kilociclos onda corta les habla. Esta es la emisora clandestina del Movimiento Libertador Guatemalteco. Hablando en su frecuencia de 6.360 kilociclos onda corta y desde algún lugar secreto de la República.
Le 17 juin 1954, depuis le Honduras, les mercenaires franchissent la frontière.
Voici les premières images filmées du côté des rebelles qui ont envahi le pays, prenant pour base le centre d'Esquipulas, où des avions sans immatriculation leur ont parachuté armes et matériel. On estime à quelques 5000 hommes, pour la plupart des émigrés guatémaltèques, les forces du mouvement insurrectionnel que dirige, assisté du colonel Mendoza, le général de fraîche date Castillo Armas.
Le 27 juin, le président démocratiquement élu, Jacobo Arbenz, amer, capitule.
Nous savons tous comment nos villes ont été bombardées, tuant des femmes et des enfants. Nous savons comment des représentants syndicaux des travailleurs et des paysans ont été assassinés et comment ont été spoliées nos terres, en particulier celles des cultures de bananes. Ce fut un acte de vengeance de la United Fruit Company.
Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos.
Nous sommes indignés par l'attaque lâche des avions mercenaires nord-américains. Sachant que le Guatemala n'avait pas de réelle force aérienne, ils ont semé la panique dans tout le pays. Ils ont bombardé.
Arbenz et sa famille sont contraints à l'exil, tandis que les Américains installent Castillo Armas au pouvoir.
Le calme est revenu au Guatemala. L'accord de San Salvador a été scellé par l'accolade théâtrale des deux chefs, le général Armas et le colonel Monzon. Chef des rebelles, désormais promu libérateur de la patrie, le général Castillo Armas a fait une entrée triomphale dans Ciudad Guatemala sous les ovations débordantes. C'est dans une atmosphère de fiesta que la foule guatémaltèque qui le conspuait hier a accompagné sa nouvelle idole jusqu'au palais du gouvernement.
Résultat, les terres que la United Fruit Company avait été contrainte de céder lui sont restituées, les taxes sur les sociétés étrangères sont supprimées, les partis d'opposition et les syndicats mis hors la loi. Et commence au Guatemala une guerre civile qui durera plus de 40 ans et fera 200 000 morts, notamment parmi les Indiens Mayas. On parlera d'un véritable génocide. Dans toute l'Amérique latine, on manifeste. À Mexico, ce sera la dernière sortie publique de la peintre Frida Kahlo quelques jours avant sa mort. Son mari, Diego Rivera, lui, peindra une grande fresque murale assez étonnante, Gloria Victoria, représentant Castillo Armas serrant la main à Foster Dulles, avec la bénédiction de l'Église, devant un énorme régime de bananes, symbole de la United Fruit Company. Personne, vous le voyez, n'est dupe. Pourtant, à l'ONU, le 17 juin 1954, le représentant américain décline toute responsabilité dans le coup d'État, qui fut, assure-t-il, une affaire entre Guatémaltèques et Guatémaltèques. C'est à l'Afrique que s'intéresse la CIA d'Alain Dulles. Le Congo, qui a connu une longue et sanglante colonisation belge, proclame son indépendance le 30 juin 1960.
Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais.
Ce jour-là, le jeune et charismatique leader congolais, Patrice Lumumba, prononce un discours resté célèbre devant le roi des Belges qui n'en croit pas ses oreilles.
À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom de textes prétendument légaux, qui ne faisait que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.
Discours historique d'une grande force, mais dont on dit qu'il signale l'arrêt de mort de Patrice Lumumba. Pour Alain Dulles, pas de doute, le leader congolais a été, je cite, « acheté par les communistes ». Très vite, Dulles trouve un remplaçant à Lumumba, un certain Joseph Mobutu, dont le règne sanglant ne cessera qu'en 1997. Et Dulles donne l'ordre à ses agents de liquider Lumumba. Le chimiste de la CIA fabrique un virus qui doit servir à empoisonner Lumumba. Mais la tentative échoue. Alain Dulles, alors, se résout à laisser les hommes de Mobutu faire le sale boulot. Le 2 décembre 1960, ils arrêtent et emprisonnent Patrice Lumumba, qui sera exécuté le 17 janvier 1961. Son corps est dissous dans de l'acide. Des circonstances qui resteront longtemps cachées. Toutes ces opérations secrètes imaginées par Alain Dulles auront de lourdes conséquences pour le monde et pour l'image des Américains, les Yankees. un jeune médecin argentin présent au Guatemala le jour du coup d'État, en tirera la conviction profonde que la démocratie et les élections sont des leurres, que la seule voie possible contre l'impérialisme est la lutte armée. Un certain Ernesto Che Guevara.
La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado.
La bestialité de l'impérialisme est sans limite.
Y la estatua que recuerda Lumumba.
La statue de Lumumba aujourd'hui est détruite.
Nos recuerda también.
Mais demain reconstruite.
En la historia trágica de ce mártir de la révolution del mundo.
Nous rappelle l'histoire tragique de ce mártir de la révolution dans le monde. Et nous rappelle que nous ne pouvons pas faire confiance dans l'impérialisme. En rien.
My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
Le 20 janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy est élu président des États-Unis. À peine est-il investi qu'il confirme Alan Dulles à la tête de la CIA, comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Cet homme, décidément, est indispensable. Mais pendant un mois, Alan Dulles cache à Kennedy la vérité sur la mort de Lumumba. Une photo a été prise à l'instant où John Kennedy apprend au téléphone la mort du leader congolais. Il met la main sur ses yeux et semble s'écrier « Oh my God ». L'auteur du cliché, le photographe Jacques Lower, racontera plus tard
« L'appel l'a laissé le cœur brisé, car Kennedy comprenait que ce meurtre serait le prélude au chaos. Il s'était fait des amis en Afrique et souhaitait gagner la confiance des dirigeants africains. »
D'autres événements vont contribuer à créer la défiance envers Alan Dulles. L'affaire de Ludo, un avion ultra-secret conçu par les Américains et envoyé par Dulles, espionné au-dessus de l'URSS. Pas de chance, le 1er mai 1960, un de ces avions est repéré et touché par l'avion de chasse soviétique.
Qu'a dit M. Khrushchev ? Que cet avion faisait délibérément de l'espionnage et que la thèse du département d'État américain, selon laquelle il s'agissait d'un avion météorologique, qui avait perdu sa route, était plus que ridicule. Le pilote, au moment de son arrestation, avait sur lui 3 montres en or, 6 alliances de femmes, 7500 roubles, ainsi qu'un revolver silencieux, bref, tout l'arsenal qu'un homme investi de mission spéciale peut avoir sur lui.
Ce scandale en 1960 a fait monter gravement la tension entre l'Est et l'Ouest.
It's Hootenanny time, and here's Red River Dave with the Bay of Pigs.
Deuxième fiasco, l'opération de la baie des cochons.
Jose and I went down to fight with honor and devotion, but at the Bay of Pigs, the commies pushed us in the ocean. Yankee Doodle, watch your step, Yankee Doodle Dandy. Mind the missiles and the subs, and with your gun be handy. Oh, there we fought 10,000 men, we waded in to meet 'em. We didn't have a fighting chance to win our country's freedom. Yankee Doodle, watch your step, Yankee Doodle Dandy. Mind the missiles and the subs, and with your gun be handy.
En mars 1960, le président Eisenhower avait approuvé un projet de la CIA visant à faire débarquer à Cuba des exilés anticastristes et à renverser le régime communiste de Fidel Castro. Mais Kennedy, qui entre-temps a été élu, exprime des doutes. Alan Dulles insiste.
Monsieur le président, dans ce même bureau à propos de l'opération Guatemala, j'avais dit au président Eisenhower, je crois que cela marchera. Et aujourd'hui, monsieur le président, je vous affirme que les chances de succès sont meilleures qu'elles ne l'étaient dans le cas du Guatemala.
Résultat, le 19 avril 1961.
L'invasion de Cuba par les troupes anticastristes aura été une aventure sans lendemain.
Elle avait pourtant commencé avec une certaine ampleur par une série de débarquements et de bombardements intensifs qui laissaient présager une offensive générale contre le pouvoir de Fidel Castro. Celui-ci n'hésita pas à incriminer aussitôt ce qu'il nomme l'impérialisme des États-Unis.
I have previously stated and I repeat now that the United States intends no military intervention in Cuba.
Les États-Unis n'ont aucune intention de se livrer à une intervention militaire à Cuba. Dans sa lettre à M. Khrushchev, M. Kennedy écrit qu'il a pris note soigneusement de la déclaration de M. Khrushchev selon laquelle les événements de Cuba pourraient affecter la paix dans toutes les parties du monde.
Le désastre de la baie des Cochons marque la fin d'Alan Dulles, démis de ses fonctions le 20 novembre 1961. Kennedy menace même de briser la CIA en mille morceaux. Alan Dulles gardera une rancune féroce envers Kennedy, ce petit jeune, catholique de surcroît, qui, disait-il, se prend pour Dieu. Il aura malgré tout la satisfaction de lui survivre. Le petit jeune est assassiné le 22 novembre 1963. Alan Dulles aura même l'honneur de faire partie de la commission Warren, chargée d'enquêter sur la mort de Kennedy. Alan Dulles meurt le 29 janvier 1969. Mais pour la postérité, il reste l'homme des opérations secrètes de la CIA pendant la guerre froide. En URSS, on disait de lui « Si l'espion Dulles arrive un jour au paradis, on le verrait miner les nuages, tirer sur les étoiles et assassiner les anges. » Mais Dulles est-il seul responsable de ces coups tordus? Ou bien était-il seulement l'homme qu'il fallait, the right man in the right place? En 1964, à la télé américaine, voilà ce qu'il répondait aux journalistes qui lui demandaient si le gouvernement savait.
Puis-je ajouter ceci? Et je le dis avec solennité. À aucun moment, quand la CIA a été engagée dans une activité politique ou une activité d'espionnage, elle ne l'a fait sans avoir été approuvée au plus haut niveau.
Mais comment croire cet espion qui mentait si bien? Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.